Rialto a été le point de départ de Venise. La place Saint-Marc en a été le deuxième centre presque aussitôt. On peut l'imaginer, cette place Saint-Marc, beaucoup plus petite alors, devant la première église. Nous savons qu'il y avait même un rio qui la traversait alors et qui ne fut bouché que quelques siècles plus tard. Il y avait des jardins, de la verdure. Maintenant, il n'y a plus que cette étendue de pierre et les touristes qui s'y accumulent en même temps que les pigeons, les premiers nourrissant les seconds et les seconds salissant les premiers, selon un très vieil usage. La vue de la place Saint-Marc évoque tout ce passé, avec évidemment tout au fond Saint-Marc, façade magnifique, qui est faite pour être vue en vis-à-vis, et de chaque côté, les procuraties, c'était là que logeaient les procurateurs de Saint-Marc, qui était une très haute fonction, c'était de grands dignitaires, les procuraties qui sont d'époque tout à fait différentes, et qui, on le remarque peu, ne sont pas parallèles. Cette place, en effet, fuit la géométrie trop régulière, et c'est un dispositif architectural qu'on trouve quelquefois comme un hommage à un monument qui est Saint-Marc, et ce sont ces côtés qui vont en s'ouvrant, un peu comme la rue de Tournon pour le Sénat à Paris, qui prend un dispositif analogue. Et ainsi, quand on est au fond de la place, il y a une sorte d'élargissement qui compense ce que la perspective pourrait avoir de rétrécissant, au contraire. Alors, cette place est faite pour une façade rythmée à 5 mouvements, un grand mouvement central, toujours des mouvements de vagues. Et ce qui est curieux, d'ailleurs, c'est qu'à l'époque gothique, les décorateurs ont été entraînés par ce mouvement et ils ont ajouté des ornements de pierre qui ont l'air de vouloir figurer les jets d'écume des vagues qui se succèdent. On est donc là devant un dispositif en façade, fait à la gloire de Saint-Marc, et les procuraties, au contraire, forment deux cortèges qui mènent vers cette façade. C'est un peu un dispositif, d'ailleurs, comme on trouve, Byzance est présente toujours, un dispositif comme on trouve à Ravenne, quand il y a le cortège des mosaïques des vierges, qui de chaque côté vont, toutes semblables, les unes derrière les autres, en cortège vers la grande mosaïque de l'abside centrale. Il y a là une réminiscence presque de ce dispositif. Et c'est ce qui fait la beauté de cette place, c'est que un endroit, elle est immobile, au fond, mais sur les côtés, elle avance, elle est rythmée. Et c'est ce qui a donné son thème architectural. Les procuratiers Vecchier à gauche, quand on est en face de Saint-Marc, qui sont l'œuvre de Coducci, sont faites d'arcatures régulières qui varient seulement entre elles selon les étages. Les plus larges étant au rez-de-chaussée, les plus étroites précipitant le mouvement, se trouvant aux deux étages supérieurs. Après l'incendie de 1512, d'ailleurs, ces procuratiers Vecchier furent achevés par Bartholoméon Bon et par Grigi. Bon était proto des procurateurs. C'est le poste que va occuper ensuite Sansovino, ce qui en fait le grand architecte de la ville et le grand urbaniste de la ville. Et en effet, Sansovino travaillera à cette place et l'achèvera plus tard, après 1532, achèvera une partie. Coducci va également faire la tour de l'horloge qui vient non pas rompre ce rythme car la tour de l'horloge fait face au débouché de la Piazzetta et elle fut bâtie entre 1496 et 1505 avec des ailes latérales surélevées d'ailleurs par la suite. Et en face, ce sont les procuratiers Nuove qui viennent prendre la suite de la libreria à l'angle de la Piazzetta. Sansovino bâtit la libreria, fit entrer brusquement Venise dans le grand art de la Renaissance et c'est son élève Scamozzi qui ensuite n'aura qu'à prendre l'enchaînement et qui retrouvera le grand thème des arcatures mais dans un style beaucoup plus nourri avec des sculptures, avec de grosses bandes portant des rinceaux aux plantes charnues et avec en haut d'ailleurs une cadence nouvelle qui s'introduit car au lieu des arcatures régulières, le dernier étage est fait, selon un thème classique bien connu, d'une alternance d'arcs qui surmontent la fenêtre et de tympans. On passe donc du rythme courbe au rythme rectiligne. Il y a là tout d'un coup une fantaisie qui s'introduit dans la place. Et Au fond de la place se trouvait jadis l'église San Gimignano, qui fut détruite sur l'ordre de Napoléon, qui militairement voulut que la place eût une unité beaucoup plus complète, sans être rompue.
C'était donc elle. Il allait une fois encore y atterrir, à cette place qui confond l'imagination et dont l'éblouissante, la fantastique architecture emplissait d'émerveillement et de respect les navigateurs abordant autrefois le territoire de la République. L'antique magnificence du palais et le pont soupir, sur la rive, les colonnes, le lion, le saint, la fastueuse aile en saillie du temple fabuleux, la mer sur la porte et la grande horloge. Et à ce spectacle, il se prenait à penser qu'arriver à Venise par le chemin de fer, c'était entrer dans un palais par la porte de derrière. Il ne fallait pas approcher l'invraisemblable cité autrement que comme lui, en bateau, par le large. Thomas Mann.
Tout est beau, tout est pur, tout est doux, tout est tendre, de tout ce qu'alentour je vois. Et dans l'air qui l'accueille, il est charmant d'entendre l'écho d'un pas ou d'une voix. La fenêtre où ce soir vient s'accouder mon rêve, qui souhaite un même demain, me montre au fond du ciel la lune qui se lève ronde sur un étroit jardin. Et tout en respirant l'odeur qui vient des roses et le parfum du noir cyprès, j'écoute la fontaine, inégale en ses pauses, qui murmure avec un bruit frais. Le beau jour écoulé revit en ma mémoire, de son matin rose et vermeil, jusqu'à l'heure où s'allonge en l'eau que le ciel moire, le long cyprès d'or du soleil. Je revois le canal, la lagune, les îles, les algues brodant les palis, et les pigeons nouant autour des campaniles leur vol, couronne de midi. J'entre en quelque palais, je sors de quelque église, ma gondole est là, son fer droit. Et, durant tout un jour, j'ai eu toute Venise, Venise tout entière à moi. Et cependant, ce soir, alors que je résume ce beau jour qui vient de finir, pourquoi se mêle-t-il soudain tant d'amertume au bonheur de son souvenir? Pourquoi donc ce sanglot, ces larmes, que sont-elles, ce soupir et cette pâleur? Ah, c'est qu'auprès de moi je te sens qui m'appelle, ma tristesse blessée au cœur. Henri de Régnier.
Le soir à Venise n'est pas synonyme d'apaisement, et quand on est sur la piazzetta, comme nous sommes maintenant, le tintement des verres indique assez, puisque c'est un repérage sonore que permet la radio, que nous sommes au café, ces cafés qui sont sur la place et où souvent s'ajoute le bruit des orchestres, celui de la piazzetta, les deux de la piazza, qui jouent naturellement des airs différents, qui parfois se mêlent, ce qui est un peu une souffrance pour les mélomanes. Eh bien, en cette fin d'après-midi où l'agitation s'augmente parce que chacun est libéré de son travail et vient se promener sur la place et parler et marcher au milieu des pigeons, nous pourrions peut-être évoquer au pied des deux grandes colonnes, qui étaient trois d'ailleurs, et qui étaient ramenées elles aussi, fruit des pillages de l'Orient, nous pourrions au pied des deux grandes colonnes peut-être évoquer ce centre de la vie vénitienne.
Oui, et il faudrait dissiper une erreur que commettent généralement les touristes, c'est de croire que la colonne de droite, quand on regarde le large, représente Saint-Georges et le dragon. Eh bien, ce n'est pas du tout c'est simplement Saint-Théodore, qui était un saint égyptien, monté sur un crocodile qui lui servait à traverser le fleuve.
Cela dit, cher ami, on dit parfois que c'était primitivement Saint-Théodore, et savez-vous même que c'est un empereur romain qui a peut-être la tête de Mithridate. C'est fait avec des morceaux. Mais on dit qu'il a été transformé par la suite pour lui donner justement l'allure de Saint-Michel ou de Saint-Georges.
Ou de Saint-Georges. Mais enfin, voyez-vous, comme on parle très souvent de Saint-Michel et de Saint-Georges, et jamais de ce pauvre Saint-Théodore, si vous voulez, je reste sur la tradition.
Premier patron de Venise.
Premier patron de Venise.
Avant Saint-Marc.
Et monté sur un crocodile, ce qui est assez pittoresque dans cette ville. Je voudrais rappeler simplement qu'entre ces deux colonnes se passait un événement assez fréquent dans la vie de Venise, c'était les exécutions capitales. Très souvent, on condamnait les gens à mort et c'était là qu'on les exécutait, sommairement. C'est là qu'a été exécuté, par exemple, un personnage qui a joué un très grand rôle dans la vie militaire de cette ville. Ça a été le fameux condottiere et Carmagnola, hein, qui était un très, très vaillant soldat, un homme très courageux, très généreux, qui a eu le défaut seulement d'être un peu trop exigeant, un peu trop orgueilleux. La République lui a fait son procès et lui a coupé la tête. À l'autre extrémité de la piazzetta, nous voyons une colonne qui, elle, est très basse, au contraire, qui est en porphyre rouge. C'était celle sur laquelle montait le juge ou le héros du juge qui annonçait le bannissement d'un citoyen qui avait cessé de plaire et qu'on expédiait ainsi à l'étranger. Cela donne une nuance peut-être un peu funèbre à cette piazzetta si gaie et si animée, mais nous sommes au crépuscule et peut-être est-il bon de rapporter aussi ces choses tristes.
Ajouterais-je, cher ami, que vous avez parlé des exécutions capitales entre les deux colonnes, mais c'était celles qui faisaient partie de la publicité de la justice. Mais n'oubliez pas qu'il y a derrière le quai des Esclavons une petite rue qui s'appelle la rue de la Mort, et c'était là que l'on exécutait le menu fretin, celui qu'il fallait opérer clandestinement.
Si c'était la justice sommaire dont on ne parlait pas. Imitons cette discrétion et n'en parlons pas non plus.
Nous avons parlé du palais des Doges, nous avons parlé des colonnes qui marque les deux extrémités de la piazzetta, mais nous avons jusqu'ici négligé la façade qui fait face à celle du Palais des Doges. Et dans l'histoire de l'art vénitien, en face du Palais des Doges, qui marque la prolongation du gothique, de ce gothique vénitien si particulier, si marqué encore de byzantinisme par certains côtés, c'est la Renaissance qui éclate avec la Libreria, exécutée par Sansovino. Sansovino était un Florentin, donc formé par cette Italie classique qui jusqu'ici avait été exclue du développement de l'art vénitien. Au surplus, il avait fait un séjour à Rome et il en est parti seulement en 1517 pour venir à Venise. Il était formé par les leçons de Bramante, par les leçons de Raphaël. C'est dire qu'on voyait s'introduire brusquement au sein de l'art vénitien un représentant de cet autre pôle qui jusqu'ici faisait seulement vis-à-vis au développement de l'art vénitien. Et Sansovino devint tout de suite un personnage très important. Il fut reçu par le doge Andrea Gritti, il fut chargé de consolider les coupoles de Saint-Marc, et puis il devient proto des procurateurs de Saint-Marc, ce qui était un poste capital puisqu'il avait en somme le contrôle de tout l'embellissement de la cité. C'était non seulement de l'architecture, c'était de l'urbanisme qui revenait à Sansovino. Et il a travaillé également sur la place Saint-Marc. Mais après avoir fait en 1532 le palais Corner, il commence la même année, il commence la rénovation de la place Saint-Marc, et c'est là qu'il va à l'angle de la piazza et la piazzetta, et principalement sur la piazzetta, il va dresser la libreria. Cette libreria est encore pénétrée de certains motifs byzantino-gothiques qui s'attardent, pour ne pas contredire cette continuité de l'art vénitien, mais on y voit surgir l'art de la géométrie, les grands entablements, les verticales marquent les aplombs rectilignes qui sont à la base de tout art classique, et avec la corniche qui termine, et tout de même déjà une sorte d'ébauche des développements futurs du baroque, avec cette rangée extraordinaire de statues qui termine cette géométrie par une animation de personnages qui se découpent sur le ciel. Et c'est en somme comme la réplique humanisée et humaniste de ces créneaux du Palais des Doges qui étaient simplement une étrange géométrie pleine de courbes et de fantaisie. La libreria fut achevée par son élève Scamozzi, et par là il passe la main à la continuité de l'école vénitienne. Mais tout de même, avant de le quitter, n'oublions pas qu'à l'angle de sa libreria, à l'angle de la piazza et de la piazzetta, se trouve la loggetta, à la base du campanile. C'était simplement une salle des gardes. Et il est amusant de penser que jadis, elle était entourée de boutiques qui ne disparurent d'ailleurs que très tardivement et que l'on voit encore dans tous les tableaux de Guardi.
Venise désirée, quelle amoureuse tu dois être pour te cacher ainsi sous tes voiles de soie et de vapeur légère, pour mettre ainsi en passion l'homme qui te poursuit. Tu le fais halter d'impatience. Tu irrites son envie jusqu'à la peur de ne plus te trouver. Es-tu si sûre de tes caresses? L'es-tu de combler l'ardeur que les promesses de ta beauté enivrent? Et ne crains-tu pas de décevoir une si longue convoitise? On arrive à Venise, comme après tous les méandres de l'insomnie, on finit par descendre sur la plage d'un songe. On vole vers Venise comme un rendez-vous d'amour. La hâte du désir fait compter les minutes lentes. On désespère de toucher au bonheur. La ville ne paraît pas, rien ne l'annonce. On la cherche au levant. On s'attend à en voir quelques signes et sur le ciel flotter les pavillons de la chimère. L'horizon où elle se dérobe est un infini muet, miroitant et désert. Parfois, on a cru découvrir une tour, un clocher sur la plaine marine, mais on doute du mirage salin. Est-ce la mer? Est-ce la terre ferme? Ou plutôt, quelque mélange fluide? Quel transparent accord des deux pattes sur la palette? Tout est ciel. C'est le ciel immense des Salines. Une vasque de rose et d'azur tendre, un océan de nacre qui irise çà et là quelques perles de nuages. On appelle la mer et on l'a au-dessus de soi, ce firmament tranquille. Puis le crépuscule rougit, une tache de sang coule sur la voûte et s'étend vers la terre. Venise n'apparaît toujours pas. Elle est là-bas pourtant, dans l'ombre lucide, d'un violet si délicat et si languissant qu'on pense au sourire de la volupté douloureuse. Je ne voyais encore ni ville, ni village, ni voiture, ni bateau. Mais le ciel portait des voiles, et les nefs y volaient à présent, dorées à l'étrave. Il me semble que tout bruit a cessé. Je glisse sur un lac, comme sur un bassin le martin pêcheur. Et voici la mer. La mer, la mer, je la sens, je la devine. Je suis enivré dès lors. J'ai connu la sirène pour la première fois au jour du plus long crépuscule. Je trempais dans un prisme liquide, toutes les couleurs et toutes les nuances, depuis la pourpre jusqu'au reflet de la soie verte la plus pâle, quand elle est comme l'ambre ou comme la liqueur d'absinthe à peine battue d'eau. L'œil rouge du ciel s'éparpillait en pétales sans nombre. Une caresse de l'air me touchait tendrement au front et aux tempes. L'odeur enivrante de la mer me vint aux narines, le souffle suave et salé qui lève des flots. Enfin, des clochers pointus sortirent de la lagune comme les épines d'une rose, et ils étaient safran du bout. J'arrivais. On rêve de Venise avant d'y être, et sans le savoir, soudain, on y est en rêve. Ce fut ainsi à la fin du jour que j'entrai chez la reine des sirènes. Le vacarme du train, le grondement de la ferraille des machines tomba comme une pierre dans un puits. Je sortais de la gare comme je me vis sur l'eau dans un fleuve de fleurs. Le ciel, sur les étages en dentelle, était une lèvre de sang vermillon. Puis l'adorable silence. La gondole me prit et de la nuit entière je ne la quittais plus. Je me roidissais de joie sur les profonds coussins. Je n'avais rien avec moi que moi-même. Bonsoir à la cohue. Je ne pensais à rien. J'avais fini de me suivre et je m'étais retiré dans la lumière du couchant comme il m'arrive. Je fais don de ma vie à cette heure. J'y suis corail et madrépore, bracelet pour la reine. Je me sentais plus libre que le goéland sur les roches d'entre le rat et saint. J'allais dans la légèreté du dernier rayon qui transperce. La gondole file sur les flots d'émeraude et de pollen rouge. Je suis flèche et fleur moi-même, dans cette terre, sur cette eau verte, parmi toutes ces pierres qui fleurissent. Habile, toujours aux aguets, prompt et docile, penché à l'avant sur sa rame noire, le souple gondolier est bon à voir, comme l'ouvrier qui aime son travail. Et il tourne le dos à son maître pour qu'il soit roi de son plaisir. Le sang doré de la lumière ruisselle des façades en effusion nuptiale. Je croyais voir Isulte, jusque-là ensevelie aux vagues de Cornouailles, surgir doucement de la mer orientale, reine bayadère, damnée peut-être, mais dans la joie d'un éternel plaisir. Ses dômes, ses pointes, ses seins, ses doigts, ses ongles de Venise, tout n'était que caresse pour le ciel brûlant et pour l'eau caressante. Les flots éblouis de la poupe, la baise et la suive, battant des cils. Au Rialto, j'ai rangé des chalands pleins de fruits. L'odeur des fraises parfumait la rive.
René Huyghe et Marcel Brion vous ont fait visiter Torcello, Rialto et Piazza San Marco. Au cours de l'émission, vous avez pu entendre des textes de Diego Valeri, John Ruskin, Jean-Louis Vaudoyer, Charles de Brosse, Thomas Mann, Henri de Régnier, André Suarez, lus par Pierre Delbon, Paul Barré, Roger Brett, Maurice Nazil et René Farabet. Ainsi s'achève Heure vénitienne. Une série d'émissions produites et réalisées par Bronislav Horowitz et enregistrées à Venise par René Huyghe et Marcel Brion de l'Académie française.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 septembre 1969. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.